traverser les moments difficiles. Alors, de quel moment difficile on peut parler ? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont vécu des moments difficiles et qui peuvent donner des thèmes de moments difficiles qu'on peut vivre ? Vas-y. Le chômage. Les situations financières. Attends, Marvin, attends. La dépression. Les problèmes de couple. Le deuil. Le divorce. Oui. Oui, les problèmes d'école. D'autres ? Alors moi, j'ai fait une petite liste, hein, mais je suis un peu plus vieille que vous, c'est normal, j'en ai vécu un peu plus. Alors moi, dans la liste, j'ai mis le découragement. Hein. La maladie, bon, c'est logique, hein, je suis infirmière. La rupture. La solitude. Parce qu'il y en a, je suis sûre que... Enfin, moi, je me suis mariée tard. Quand j'entendais dire, ouais, les problèmes de couple, je disais, moi, c'est un problème que j'aimerais bien avoir. Moi, déjà, le mot couple, je n'ai pas. L'inquiétude. L'inquiétude pour l'avenir. L'éloignement de Dieu. Dans les moments difficiles, ça peut être aussi le passé qui revient en mémoire. Ça peut être les difficultés familiales, pas les nôtres, celles de nos parents, celles de, que... ou qu'on nous a fait vivre. Voilà. Les moments difficiles, malheureusement, on en passe tous. D'accord ? Alors, j'ai une bonne nouvelle. Il n'y a pas que ça dans la vie. Heureusement. Heureusement qu'il y a d'autres moments. Et puis, j'ai une autre nouvelle, assez intéressante, c'est que la Bible en parle. Alors, donnez-moi des noms. Allez, on va dénoncer ce soir. Donnez-moi des noms de personnes qui ont passé des moments difficiles. Marie, heureusement que t'es venue. Des personnes qui ont passé des moments difficiles dans la Bible. Vas-y, Marie. Eh ouais, c'est le premier que j'avais choisi. D'autres ? Il n'y a pas que lui. Ah, le travail, oui, d'accord. David, ouais, qui d'autre ? Et Jésus, Joseph, Paul. Ah, c'était Joseph aussi. Moïse, oui, il a passé des sales quarts d'heure, oui. Jérémie. Osée. Hein. Malachi, ouais. Oh, je pense que Pierre aussi. La belle-mère, oui, bah, Ruth et sa belle-mère, oui. Et Noémie. Qui ? Jean en prison. Joseph, il était. Il y a le club des. Il y a les fans de Joseph ici, les filles. Hein. Daniel, Rebecca. En fait, dans la Bible, ils ont quasiment tous passé des sales moments. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit épargné. Et ce qui est génial, c'est que vous avez cité les deux dont je voulais parler. Tout d'abord, Job. Alors, qu'est-ce que vous savez de Job ? En dehors du fait que ça veut dire travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous savez de Job ? Ouais. Je pense que dans le genre série noire, Job, il a donné. Alors, comment ça a commencé, l'histoire de Job ? Comment ça s'est passé ? En fait, ce que nous dit la Bible, c'est que Job était un homme intègre. Déjà, ça met la barre haut, d'accord ? Parce que j'ai oublié de dire, des fois on passe des moments difficiles, parce qu'on s'est mis tout seul aussi. Hein ? Les moments difficiles, parce qu'on s'est mis au mauvais endroit, au mauvais moment. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là ? D'accord ? Il y a, et puis, de ce que je n'ai pas évoqué, et on va l'évoquer là, Job était un homme intègre. Il était même approuvé par Dieu. Donc, comment on le sait ? Ben, comme il était approuvé par Dieu, il s'est fait un ennemi. Quelqu'un qui était jaloux. Est-ce que vous connaissez le livre de Job ? C'est pas celui qu'on préfère en général. Hein. Il est un peu ardu à lire. Comment ? Ben, pas au début, non. À la fin non plus. Au milieu. Bien, au milieu. Alors... Le livre de Job, c'est un livre qui est compliqué à lire, mais je vous encourage à le lire. Job, Il était approuvé de Dieu. Comment on le sait? C'est que le livre de Job commence par un dialogue. Satan vient voir Dieu, puis lui dit, dis donc, et Dieu lui dit, t'as vu Job? T'as vu comment il m'aime? T'as vu? C'est l'amour qu'il a pour moi. Est-ce que vous savez que Dieu est fier de nous? Et là, il y a Satan qui lui dit, attends. Ouais, bah, il t'aime parce qu'il a des possessions, en fait. Hein. Il était très riche. Il avait beaucoup d'enfants. Donc, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les enfants étaient synonymes de richesse. Il avait du pouvoir. Il était écouté. Il était reconnu pour sa sagesse. C'était un homme, un modèle, quasi parfait. On verra qu'il y avait un tout petit défaut dans la cuirasse. Et donc, Satan va l'accuser et va dire... Oh, écoute, t'es un peu naïf, Dieu. Tu vois la vie en rose, mais enlève-lui tout ça et tu vas voir qui va te maudire. Et Dieu va dire à Satan. Oui, parce que j'ai oublié de dire, Satan s'est proposé pour rendre service à Dieu en lui disant, moi si je m'en occupe, tu vas voir qu'il va plus être aussi parfait que ça. Et Dieu lui dit, écoute, ok, mais tu touches pas à sa vie. Alors Satan a beaucoup d'imagination, et si vous voulez la liste des malheurs, vous ouvrez le livre de Job. Parce que Satan était jaloux, Job va tout perdre, il va passer à un moment difficile. Et j'ai mis un moment entre parenthèses. Parce que ça va commencer par l'annonce, alors si vous lisez le chapitre 1 de Job, vous allez voir, moi à sa place, c'est comme quand vous écoutez vous regardez la télé et les mauvaises nouvelles. À un moment, vous avez envie de couper le son et puis rien entendre. Ben, je pense que lui, il devait être dans cette situation-là. Parce que coup sur coup, on est venu lui annoncer que son bétail avait été décimé, que ses enfants étaient morts, qu'il y avait eu des bestioles dans ses champs. Enfin, il a, en peu de temps, il a tout perdu. Et le fin du fin, c'est qu'à un moment même, il a tellement tout perdu qu'à un moment, il y a même sa femme qui aurait dû le soutenir. C'est fait pour ça, hein, la vie de couple, normalement, on se soutient. Qui va lui dire, bon, écoute, moi, j'ai une solution. Elle croyait en Dieu, elle croyait dans la puissance de Dieu. Elle lui dit, moi, j'ai une solution. Maudit Dieu, et meurt. C'est sûr que ça aurait été efficace. Donc, dans ce moment difficile, Job a tout perdu. Alors nous, quand on lit le livre de Job, on lit l'introduction et on sait ce qui s'y passe. D'accord ? Il y a des fois, c'est un peu facile quand on connaît l'enjeu. Mais Job, lui, il est sur la terre. Du jour au lendemain, plus rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas la télé, il n'a pas, pas la parabole, il a rien. Peut-être même que la parole de Dieu n'était pas écrite à ce moment-là. Et on pense même que c'était avant Moïse. Il n'a pas la loi, il n'a rien. Il a juste son cœur... pour Dieu, son cœur obéissant, pour Dieu, parce que Dieu a mis c'est écrit hein, dans la Bible que Dieu a mis en nous l'espérance et la pensée de l'éternité. Il a que ça, Job. Et du jour au lendemain, sans rien, il perd tout, sans raison apparente. Et à ce moment-là, vous savez, quand ça va mal, vous avez toujours des gens qui viennent vous voir. Alors Job, il a des amis. Il laisse des amis bien pensants qui viennent le voir. Et comme on est au Moyen-Orient, ils ont tout leur temps. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des palabres au Moyen-Orient, ça dure. Et là, quand vous lisez le livre de Job, vous vous dites, mais quand est-ce qu'il dormait? Donc, Job, il est là, il est dans son lit. Alors oui, il va tout perdre et il ne va pas renier Dieu. Et Satan revient voir Dieu. J'ai oublié un épisode. Satan revient voir Dieu et lui fait... Alors, Dieu lui dit, t'as vu Job, je te l'avais dit, il a tout perdu, il m'a pas renié. Et là, Satan, rappelons-nous qu'il est aussi appelé l'accusateur, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais touche à sa santé, et tu vas voir s'il va pas te renier. Et là, Job, effectivement, il a eu une grave maladie, où il se grattait, ça le brûlait, il se grattait avec des tessons, des tisons de feu, enfin bref, avec des trucs brûlants pour essayer de cautériser la douleur. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà brûlé une fois dans votre vie, mais honnêtement, je ne sais pas ce qui était le plus soulageant pour lui. Donc, il en était rendu même dans son corps. Donc, je pense qu'il ne devait plus dormir. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que sa femme lui a donné ce merveilleux conseil, « Maudit Dieu et meurt ». Et il était épuisé physiquement, épuisé moralement, il n'en pouvait plus. Et là, ses amis arrivent. Alors, dans un premier temps, ils vont se taire. Et puis, vous savez, vous avez des gens qui sont toujours obligés de dire quelque chose, parce que ne rien dire, c'est insupportable. Et puis, il faut avoir un avis sur quelque chose. Hein. Donc, ils vont donner leur avis. Et là, si vous lisez ça, c'est une collection expliquant que s'il est comme ça aujourd'hui, c'est forcément qu'il a péché. C'est forcément qu'il n'a pas obéi, c'est forcément qu'il a fait quelque chose qui n'allait pas. Et Job leur répond, mais non. Et là, vous lisez la vie de Job. Quand vous le lisez, comment il décrit sa vie, honnêtement, moi, j'aimerais lui ressembler. Il explique qu'il ne voit pas un homme pauvre sans lui donner son manteau. Si celui qui est à côté de lui il a faim, il partage son pain. Si quelqu'un est dans la détresse, il l'accompagne. Si quelqu'un est maltraité, il le soutient. Si son serviteur a quelque chose à demander, il écoute et parfois même il lui donne raison. Enfin, voilà, Job dit, mais je vois pas. Et les gars, ça y va. Alors là, il y a des pages. Et il y a des pages. Et moi, c'est des pages que j'aime plus lire parce que il l'accuse. Je pense qu'après, s'il était limite dépressif, là, il pouvait y être complètement. Après, des amis comme ça. Et ils mettent la charge. Hein. Et ça revient. Ils sont trois et chacun son tour. Et donc, à ce moment-là, Job, il n'est même pas compris par ses amis. Ses amis ne peuvent plus rien pour lui, il n'est même pas compris par eux. Et puis il est encouragé au pire par sa femme. Donc en matière de tableau de souffrance, de mauvais moments, je pense que Job il a passé un mauvais moment. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais même pas combien de temps vont durer les visites sur son lit d'hôpital par ses amis, mais... même si ça a été court, ça a dû être terrible. Et il était découragé. Et puis, on a eu un autre exemple qui a été cité, et on l'a vu la semaine dernière. Qui était là la semaine dernière quand on a vu la passion, la crucifixion ? D'accord ? Donc là, je vais vous redire, je ne vais pas vous faire deviner, parce qu'on a dit beaucoup de choses. D'abord, Jésus, avant d'arriver jusqu'à la croix, il n'a pas été reconnu par sa famille. D'accord. Quand il a voulu aller à Nazareth hein, ou en Galilée, quand il a voulu faire des miracles, il est dit qu'il n'a rien pu faire parce qu'il croyait pas en lui. Ils étaient tous en train de dire bah, mais non, mais ça va pas, c'est pas un maître. Hein. Nous on le connaît, il est charpentier. C'est lui qui a fait le toit chez moi. Non, nous on le connaît. Il a été rejeté par les siens. Vous savez, être rejeté par des gens qui vous indiffèrent. J'ai envie de dire, on s'en fout. Être rejeté par les vôtres, par ceux qui sont censés vous aimer, par ceux qui sont censés vous protéger, par ceux qui sont censés vous encourager, c'est terrible. Et Jésus a connu ça. Et puis même, il va être rejeté par ceux qui l'ont béni, parce que souvenez-vous, quand il est condamné, il y en a qui vont porter des faux témoignages contre lui. Je sais pas si vous vous souvenez, une fois je l'ai fait faire aux jeunes cette scène. Quand il est arrivé dans la ville une fois, c'était la fête, tout le monde l'acclamait. C'était juste deux jours avant la crucifixion. Et tout le monde disait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de notre roi ». Alors, on a un chant qui fait ça, et une fois pour les jeunes, on le refera sûrement un jour, j'avais fait rentrer, tous les filles étaient sorties, elles étaient rentrées avec leur foulard, et on chantait « Hosanna, Hosanna ». Non, c'est plus ça. Bref, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». On l'a vécu, enfin, je voulais qu'on le vive, ça. Et à ce moment-là, pour vous dire un petit peu ce qui se passait, l'ambiance qu'il y avait, moi j'aurais voulu être là, à ce moment-là, il y a les disciples qui... Il y a des gens bien qui viennent dire aux disciples « La sono est trop forte, ça dérange !» Alors les disciples s'approchent de Jésus puis lui font... ils crient trop fort, ça dérange. Et Jésus leur dit « Mais s'ils se taisent, c'est les pierres qui vont crier. » C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Et là, le peuple l'acclame. La foule, elle l'acclame. Il croit vraiment qu'il va être roi à ce moment-là. Mais un roi qui va chasser les Romains, comme on l'a dit la semaine dernière, ils ont rien compris. Hein. Un roi, et puis ça nous arrive souvent aussi. Un roi qui va chasser les Romains, un roi qui va ramener la royauté de David sur Israël, un roi qui va ramener la puissance sur Israël, ils y croyaient. En plus, il arrive sur un ânon, c'est complètement ce qui est écrit dans la prophétie. Quelques heures plus tard, ils vont le rejeter. Comme dans les 10 lépreux qu'il a guéris, combien sont venus le remercier ? 1. Combien ont gardé leur guérison ? 10. Donc Jésus, il va être abandonné par ceux qu'il a bénis. Mais pas que. Dans le jardin de Gethsémané, au moment où il a besoin de ses potes, parce qu'il sait qu'il va passer un sale quart d'heure, il sait qu'il a besoin d'être soutenu. Je vous rappelle en passant que c'est juste que Jésus, seulement. Il sait qu'il va passer un mauvais moment. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont fatigués, eux. Je ne juge pas, hein. Moi, j'aurais peut-être été fatiguée aussi, parce que c'était intense, tout ce qu'ils ont vécu. Mais ils dorment. Peut-être qu'ils étaient déprimés, eux aussi, parce qu'ils sentaient que leur était grave. Hein. Au moment du repas, juste avant, on fêtait la Pâque, on fêtait la libération du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. C'était un repas de fête, et là Jésus leur dit, mangez mon pain, mangez ceci, c'est mon sang, buvez ceci, c'est mon sang, mangez ceci, c'est mon corps. Là, ils se sont dit, oh là, mais je sais pas ce qu'ils racontent, mais ça a l'air grave. Et puis Jésus les avait prévenus qu'il fallait qu'ils meurent. Ils y croyaient pas, mais quelque part dans leur tête, l'heure était grave. Et peut-être que c'est ça qui a fait qu'ils ont dormi. Toujours est-il qu'ils l'ont abandonné. Et puis on l'a vu, il y en a un qui l'a trahi. Il y en a deux qui l'ont trahi même. Il y a un premier qui l'a trahi en le vendant, contre 30 pièces d'argent. Et puis il y a un autre qui l'a trahi. Alors le comptable, bon, il le vend pour 30 pièces d'argent. On sait que l'argent pourri les meilleurs. Mais Pierre, c'est l'un des trois intimes de Jésus. À chaque fois que vous voyez quelque chose, ce qui se passe où Jésus va dans l'intimité, il y a toujours trois personnes avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Sur la montagne de Transfiguration, j'y pensais tout à l'heure quand on chantait Agnus Dei, ça fait partie des chants que j'aime beaucoup, moi, venir dans la présence de Dieu, c'est toujours un grand moment de bonheur. Et je pensais à Pierre quand il était sur la montagne de Transfiguration, qui a dit à Jésus, dis donc, on va t'installer une toile de tente, et puis tu vas rester toi, Moïse et Élie qui sont avec toi, vous allez rester là, puis nous on reste avec vous, parce que là c'est trop cool, quoi, mais vous imaginez le truc, il est dans la nuée, il y a Jésus qui est illuminé, Pierre lui veut pas redescendre, hein. Il veut rester là, il sait que Dieu est, que Jésus c'est le Fils de Dieu, à un moment il va lui dire, quand Jésus va dire, mais qui dit-on que je suis, Pierre va lui dire, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il sait qui c'est, Pierre. Et Jésus va lui dire, puis quand Jésus dit, ce soir vous allez m'abandonner, Pierre, non, pas moi. Alors les autres, je te donnerai bien des noms, parce que alors lui, je pense que, ouais, lui il va craquer, lui c'est déjà fait, mais moi, attends, moi je suis ton intime, t'as guéri ma belle-mère, je suis toujours avec toi, j'étais avec toi quand t'as ressuscité la petite, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai toujours été avec toi, moi je te suivrai jusqu'au bout, puis Jésus lui dit non. Avant que le coq va chanter, donc lui il savait ce que ça voulait dire, hein, c'était avant le matin, avant que le coq va chanter, tu vas me renier trois fois. Et malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Et dans le film, on l'entend pas le coq, mais je pense que quand Pierre a entendu le coq chanter, non seulement il est dit qu'il regarda Jésus et pleura amèrement, mais en plus il a entendu le coq chanter. Je peux vous dire que ça a dû lui faire une belle claque à Pierre, mais n'empêche que le mal pour Jésus, il était fait. Jésus était abandonné par son meilleur ami. Et puis ça se termine pas là. Jésus, on l'a vu la semaine dernière, il va sur la croix. Et à un moment, il dit, Eli, Eli, abactumi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus, l'intimité de son intimité, c'était son père. C'était Dieu. À 12 ans, quand avec ses parents, il est allé à Jérusalem, que Marie croyait que Jésus était devant avec Joseph, et que Joseph croyait que Jésus était derrière avec Marie. Ils ont fait demi-tour, ils sont allés le chercher à Jérusalem, ils sont retournés, et là Jésus leur dit, mais il fallait bien que je m'occupe des affaires de mon père. J'imagine la scène pour les parents. Et Jésus, il savait qui était son père. Jésus était toujours dans la présence de Dieu. Jésus, avant de choisir ses disciples, il a passé une nuit en prière. Il était à Gethsémané, il a dit à Dieu, mais que ta volonté se fasse. C'était une intimité, mais profonde avec Dieu. Jésus vivait avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est descendu sur terre, il s'est incarné comme homme. Mais à tout moment, il était en communion avec son Père. Et là, quand à un moment, tous les péchés de la terre sont venus sur lui, il ne pouvait plus être en communion avec son Père. C'était pas possible. Alors que c'est un Dieu de communion. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, la première chose que Dieu va faire quand il va arriver pour les rencontrer, c'est il va dire « Mais où êtes-vous ?» Parce que Dieu, c'est un Dieu de communion, il voulait parler avec eux, il passait du temps à discuter avec eux. « Et mais où êtes-vous ?» Et ils étaient en train de se cacher parce que le péché nous empêche de nous approcher de Dieu. Et ce péché a fait qu'à un moment, Jésus n'avait plus de communion avec son Père. C'était juste pas possible. Dieu peut pas être en communion avec le péché. Et à ce moment-là, Jésus était revêtu de notre péché. Il était séparé de son Père. Il était seul. Il était seul sur la croix. Donc quand on se sent seul, s'il y en a un qui peut nous comprendre, celui qui a vécu toute l'injustice, celui qui y est allé, à ce moment-là, il n'avait même plus la communion avec Dieu. Donc Jésus a passé des sales moments. Je pense que celui-là, c'était vraiment le pire. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est comment... Là, je vous ai décrit ces moments, vous les connaissiez, mais bon, c'était histoire d'être sûr qu'on parle bien de la même chose. On va voir comment ils ont réagi. Alors d'abord, Job. Job, quand tout va lui tomber sur la tête, sauf le ciel, mais on n'en était pas loin, il va partager sa souffrance avec ses amis. Il ne va pas rester seul. Il ne s'enferme pas dans sa souffrance, il cherche un regard extérieur. Parce que la tentation, quand tout va mal... c'est de faire l'autruche. Alors évidemment, je ne vous imagine pas mettre la tête dans le sable et avoir que les jambes qui dépassent. Non. Mais la tentation, c'est éventuellement de se mettre au fond du lit. Et puis sous la couette, et puis on n'en sort plus. Alors il y a un autre endroit, surtout chez les enfants. J'avais remarqué quand je travaillais au foyer de l'enfance, c'est un éduc qui m'avait dit, tiens, regarde donc. C'est les toilettes. Parce que c'est un moment d'intimité. Alors peut-être pas vous, mais moi j'en connais qui le font. Et la tentation, quand tout va mal, il y a plusieurs possibilités. Moi, je connais les gens avec qui je travaille, pour qui je travaille, leur tentation, quand tout va mal, c'est de prendre des produits. En France, lui qu'on connaît le mieux, c'est l'alcool. Après, vous avez les médicaments. Après, vous avez d'autres produits qui vous mettent la tête à l'envers. Pendant ce temps-là, vous ne pensez pas. C'est juste qu'au moment où le produit, on l'arrête, les problèmes, ils sont toujours là. Mais en plus... la cerise sur le gâteau, c'est que l'alcool, ça génère de la dépression. Donc soigner de la dépression avec de la dépression, ça va forcément moins bien. Job, il reste pas avec il va partager avec ses amis. Et en plus, il les écoute. Il a du mérite, hein, parce que franchement, ils mettent la charge. Hein. Mais il les écoute. Et quand vous voyez comment il leur répond, ça veut dire qu'il les a bien écoutés. Même si il n'est pas toujours... d'accord avec ce qu'il dit, il va quand même analyser ce qu'ils lui disent. Des fois qu'il y aurait quelque chose qui pourrait l'aider à comprendre. Mais il ne se laisse pas accuser non plus. Il ne se laisse pas accuser pour des choses dont il n'est pas responsable. Et des fois, dans nos vies, on peut se laisser accuser. On peut nous dire des choses. Et pour ça, Satan, c'est le roi du mensonge. Rappelez-vous ce qu'il a dit sur Job. On peut avoir vécu des choses... et puis se laisser accuser par ces choses en disant, tu vois comment t'es, tu vois ce que t'as vécu. Ou vos parents, ou des gens qui n'auraient pas dû vous dire ça, qui vous disent, oh t'es un boulet, hein. Oh si t'étais pas là. Mais qu'est-ce que j'ai fait le jour où t'es venu? J'aurais jamais dû te rencontrer. Mais qu'est-ce que t'es venu faire dans ma vie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est des accusations pour vous détruire. Job, il ne s'est pas laissé accuser là-dessus. Job, ce qui faisait sa force, c'est quoi qu'il arrive, il faisait confiance à Dieu. Quand sa femme lui a dit « maudit Dieu et meurt », il a dit « non, 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 Dieu y est pour rien là-dedans. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas Dieu. Je connais Dieu, ça ne peut pas être lui. » Il va essayer de comprendre. Il va faire le point sur sa situation. Il n'est pas fataliste. Il ne nie pas qu'il a des difficultés. Il n'est pas en train de dire « Ah bon ? Ah non, mais tout va bien. » Vous savez, vous avez des gens, ils ont les traits tirés. Ils ont tous les, enfin voilà, ils sont penchés en avant, ils ont les larmes aux yeux. Ils arrivent plus à avancer. Vous leur dites ça va ? Ouais, ça va. T'as pas besoin d'aide ? Non, je gère. Je gère. Alors, je dis pas qu'il faut s'épancher, parce que vous en avez d'autres. À chaque fois, moi, il y a des gens à qui je demande plus si ça va, parce que à chaque fois qu'on leur demande si ça va, en plus je suis infirmière, donc c'est pas cool. J'ai la liste de tout ce qui va pas. Par exemple, moi j'ai le privilège, alors maintenant elles sont plus vieilles mes copines, mais quand j'allais voir les copines qui avaient accouché, tout le monde s'émerveillait devant le bébé, moi j'avais le privilège d'avoir tout ce qu'elles ont vécu pendant l'accouchement. Parce que je suis infirmière, donc il fallait que je comprenne. Voilà. Voilà, vous avez des gens à qui faut pas demander, vous avez des gens qui vont toujours mal. Mais comme on l'a vu, j'en avais parlé en début d'année, quand les messages sont en ligne, même celui-là n'a pas été enregistré, je vous rappelle que si on est toujours victime, on ne devient jamais acteur. Hein. Si on est toujours victime dans sa tête, si on est toujours victime de tout, forcément, si on est victime, ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de changer quoi que ce soit, parce que tout arrive à cause des autres. Donc si dans votre vie, si vous regardez votre vie et vous considérez que tout ce qui vous arrive c'est de la faute des autres, ben j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça ne changera jamais. D'accord ? Parce que les autres ils ne vont pas changer. Et pour reprendre à Job, il va analyser ses attitudes passées, il va analyser ce qu'il a fait et vous lirez, c'est les réponses de Job, j'aime bien les lire. Il va regarder son passé très honnêtement et il va faire le point. Alors je dirais, on commence à apercevoir l'erreur de Job, c'est quand il dit qu'il a tout fait. Il pense avoir tout fait. Il est quasiment parfait. Ça m'est arrivé de discuter avec des copains, même récemment, qui vivaient des galères pas possibles et qui me disaient, mais Marido, dis-moi ce que je n'ai pas fait. Dis-moi ce que j'ai mal fait. Dis-moi ce qui va pas dans ce que j'ai fait. Et je me souviens notamment d'un copain qui passait par un moment douloureux, mais tout a craqué dans leur vie. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu crois vraiment que c'est une question de faire ou pas faire? Si tout le monde, il avait entre autres un problème de travail, mais il n'avait pas que ça. Si tout le monde avait fait tout ce que tu as fait pour trouver du boulot, je peux te dire que le chômage, on ne serait pas à 10%. Aujourd'hui, en France, on serait à 1 ou 2%. Et combien de personnes ne mériteraient pas leur emploi aujourd'hui? Si tout le monde avait fait ce que tu as fait dans ta famille, la France irait beaucoup mieux. Ou on ne mériterait pas d'avoir l'amour qu'on a. Ce n'est pas une question de faire ou pas faire avec Dieu. Avec Dieu, la question, c'est qu'est-ce que j'ai laissé Dieu faire? Qu'est-ce que j'ai laissé à Dieu dans ma vie? Et Job, quand vous lisez ses réponses, c'est beaucoup de choses qu'il a fait. Et en gros, depuis le début, je vous dis que Job était quasiment parfait. Mais quelque part, cette perfection, Job pouvait se l'attribuer. Et je pense qu'il était là. Elle était là, la fragilité de Job. C'est que Job s'attribuait ses réussites. Et on va voir comment Dieu va lui répondre. Et Jésus, lui? Jésus, comment il a réagi? Lui aussi. Il va chercher ses amis. Et puis lui aussi. Donc lui aussi s'isole pas dans son problème. Même à Gethsémané, pourtant c'était un truc entre Dieu et lui. C'était à lui d'y aller, il savait. Mais il comptait sur ses amis pour qu'il soit là. Il y a des fois, c'est pas une parole en l'air quand on va voir quelqu'un en lui disant « prie pour moi ». Moi ça m'est arrivé de dire à des amis chers « prie pour moi parce que là je peux plus ». Moi je peux plus prier. Récemment, j'ai un ami qui passait une période très très difficile et je lui dis on va venir prier pour toi. Et puis il m'a dit non. Non, parce que j'ai plus envie de prier. Mais je lui dis c'est justement pour ça qu'on est là. Parce qu'il y a des moments, lisez David, lisez les psaumes de David, il était honnête avec Dieu. À un moment, David, il dit mon âme, élève-toi. Pourquoi? Parce qu'elle t'est abattue. Et puis, il restait pas seul. Et Jésus n'est pas resté seul. Il aurait aimé que ses amis soient là. Si Jésus a eu besoin de ses amis, combien plus forte raison on a besoin de nos amis. des vrais amis. Et il dit toute son appréhension à Dieu. Il parle à Dieu aussi hein, dans ses réponses. Et à ce moment-là, Job commence à avoir conscience de sa faiblesse. Il dit qu'il se soumet à Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il est dans une extrême faiblesse et il sait à ce moment-là qu'il n'y a que Dieu qui peut le justifier, parce que ses amis, ils en mettent une charge. Hein. Mais Dieu peut le justifier. Et donc, du coup, il ne va pas chercher sa justification. Il va expliquer à ses amis, il va leur dire, mais attendez, non, c'est pas vrai ce que vous dites, voilà tout ce que j'ai fait. Et si quelqu'un a quelque chose à dire sur moi, mais qu'il vienne. Et il va pas répondre à la provocation. Moi, je pense qu'à un moment, j'aurais été Job, j'aurais répondu, vous savez, des fois, vous avez des gens, ils vous assassinent, ils vous en mettent des caisses, puis vous avez juste envie de dire, toi-même. Parce que je ne sais pas comment ils vivaient, les amis de Job, mais s'ils appliquaient la moitié de ce qu'ils disaient à Job, c'était déjà pas mal. D'accord ? Vous avez toujours... Alors ça, vous l'aurez toujours. Dans les milieux chrétiens, on est assez bon pour ça. Quand ça va mal, on a toujours une bonne personne pour dire « Peut-être même que t'as péché !» Ça vous arrive. Peut-être que ça arrive plus maintenant, c'est peut-être dans le temps, dans l'église. Enfin, Satan est capable de vous le susurrer tout seul dans la tête. Si c'était juste parce qu'on a péché, on n'aurait même pas le droit d'aller bien, parce que de toute façon, on est tous pécheurs, d'accord ? Et il va pas répondre à la provocation. Il va pas leur demander à eux ce qu'ils ont fait pour mériter la vie, pour mériter d'avoir tous les... Et Jésus, alors je suis en train de me mélanger entre Job et Jésus, moi c'est joyeux. Jésus, oui, alors je reviens à Jésus. Jésus, lui, il va pas se justifier. Rappelez-vous, Jésus, lui, il aurait pu... Il va pas répondre non plus à la provocation, vous vous souvenez, quand les prêtres arrivent et puis lui disent « Bah, appelle une armée d'anges, ils vont te délivrer. » Il répond pas. Jésus, ce qu'il fait, lui, il continue son œuvre. Il sait où il va. Il en connaît le prix. Il commence à le mesurer. Il continue. Dans ce moment difficile, il reste sur le chemin qui lui a été tracé. Il regarde à l'objectif final, il ne regarde pas au présent. Il sait ce qu'il a à faire, il mesure l'enjeu. Et vous savez ce que c'est son enjeu à ce moment-là ? C'est le salut des hommes. C'est ce qui avait été prévu dès le départ avec Dieu. L'enjeu pour Jésus à ce moment-là, c'était notre vie. Il savait que c'était le plan de Dieu pour nous. Je ne sais pas si vous êtes déjà déplacé pour aller d'un point à un autre. Des fois, on sort la carte. Alors aujourd'hui, on sort le GPS. Et puis on essaye, quand on arrive à le faire marcher, au GPS, où est-ce qu'on veut aller. D'accord ? Alors le problème avec le GPS, c'est qu'on ne sait pas où il nous amène. Nous, on a un GPS qui a des... Ça m'est arrivé une fois, le GPS a voulu me faire prendre une passerelle à piéton. Oui, évidemment. Mais vous savez que vous allez finir par y arriver. Quand vous partez en randonnée, avec le sac à dos, avec la fatigue, au bout d'un moment, vous savez où vous devez arriver. Et c'est pour ça que vous tenez. Alors des fois, les enfants, ils tiennent pour le goûter qu'il y a dans le sac des parents, mais vous avez un but. Et quand on regarde à ce but, on va mieux supporter ce qui nous attend. D'accord ? Quand vous faites des études, pour passer des diplômes, vous savez qu'il faut réviser, qu'il faut travailler. Et le jour où vous avez votre diplôme, ben vous savez que voilà, vous allez pouvoir aller ailleurs, vous allez pouvoir au-delà, vous allez pouvoir faire autre chose avec. C'est-à-dire que vous avez un but. Maintenant, dans nos vies, vous savez quoi ? Dieu, il a des projets pour nous. Il y a un verset, alors je ne sais plus où il est, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te préparer un avenir et de l'espérance. » Alors je ne sais plus où il est celui-là, mais je peux vous assurer. Merci. Je peux vous assurer que pour moi, c'est une ferme assurance. Parce que quand Dieu m'a appelé à travailler auprès des drogués, je ne savais pas où j'allais. Et heureusement, je savais pas par où je passerais. Mais je savais que j'y allais. Et quand à un moment, j'ai eu la tentation de changer de voie, de changer de métier, J'ai eu des opportunités de changer de métier, parce que il y a eu un moment où j'avais deux métiers, j'étais à la fois infirmière et chargée de sécurité, et je cherchais un autre emploi. J'ai eu des propositions comme chargée de sécurité, et à chaque fois j'avais cette conscience qu'il fallait que je garde mon identité d'infirmière, parce que c'était là-dedans que Dieu me voulait. Quand à un moment on m'a proposé un poste avec un salaire que je n'aurais jamais, un salaire mirobolant pour moi, qui était au-delà de tout ce que je pouvais espérer, je demandais une somme en disant bah au moins ils vont me lâcher quoi. Et le gars m'a proposé 2% en dessous de ce que j'ai demandé. Mais sauf que je savais que si j'acceptais ça, je quittais la voie de l'addiction, puisque j'avais commencé à me former dans l'addiction, et je savais que c'était là-dedans que Dieu me voulait. Et Aurélien s'en souvient bien, parce que oui, on a passé des périodes financières difficiles, et là j'ai refusé. J'ai refusé un poste pour un salaire qui serait le double de ce que je touche aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai vécu tout ça? Parce que je savais où j'allais. Jésus, il savait où il allait. Il savait quel était ce que Dieu avait mis sur son cœur. Et vous savez quoi, les jeunes? Vous savez quel âge j'avais quand Dieu m'a mis ce fardeau sur le cœur? J'avais 20 ans. C'était il y a 30 ans. Si j'avais pas eu ça, il y a bien des moments où j'aurais dit je laisse tomber. D'accord? Demandez à Dieu ce qu'il vous met sur le cœur. Demandez à Dieu. On vit pour une œuvre plus grande que nous. Je sais pas si vous avez déjà marché sur un chemin. Non, ou fait du vélo. Quand vous faites du vélo. Quand vous faites du vélo, si vous regardez vos pieds, il va se passer quoi? Même si vous marchez sur un chemin. Si vous regardez vos pieds, il se passe quoi? Vous prenez un mur, d'accord? Pour avancer, il faut regarder droit devant. J'ai même fait des formations, forcément à la sécurité, et un des principes pour quand on est face à un obstacle, qu'on roule vite, pour éviter l'obstacle, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut regarder ailleurs. Les motards le savent, je crois. Sinon, vous savez quoi? Si on y va tout droit. C'est pour ça que sur autoroute, on a une espérance de vie de 2 minutes. Parce qu'un piéton sur une autoroute, c'est pas normal, tout le monde, 7 minutes. Ouais, c'est sympa, tu parles, ça fait 5 minutes de plus à avoir peur. Tout le monde regarde le piéton. Alors maintenant qu'on leur met des gilets fluo, on n'est plus sûr de pas les louper. Tout le monde regarde le piéton, et qu'est-ce qu'on fait? On va droit dessus, d'accord? Il faut regarder loin devant. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Regardez à Dieu, regardez au ciel. Oui, non, mais pas... Alors c'est spirituel maintenant. Non, non. Alors, t'as raison, Guy. Bien vu. J'ai pas fait la transition. L'idée, c'est que c'est spirituel maintenant, l'explication. Vous regardez au ciel, c'est spirituel. Oui, t'as raison. Non, non, vous regardez pas au ciel quand vous marchez ou quand vous conduisez. Oh là là. En plus, c'est enregistré. Alors, on revient à Jésus. Lui, il continue son œuvre. Et en plus, il est tellement conscient de qui il est à ce moment-là. Parce que avant qu'il dit « Mon Père, m'as-tu abandonné ?» qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Tellement il est conscient de qui il est. Qu'est-ce qu'il va faire sur la croix? Mais il va commencer par par dire « Pardonne, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. » Je pense pas que j'aurais pensé, moi. Il avait compris, lui. Il avait compris que les autres n'avaient rien compris. Même pas ses disciples. Jésus savait, lui, ce qu'il devait faire. Les autres le savaient pas. Ils comprenaient pas. C'était au-dessus de leur tête. C'était une dimension spirituelle. Ça leur passait au-dessus de la tête. Et là, Jésus va pas leur en vouloir. Il va leur pardonner. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit, hein. C'était qu'il fallait pardonner. Et lui l'a fait. Et puis, alors que il aurait eu des raisons de se plaindre, alors qu'il aurait pu se concentrer sur sa douleur ou essayer de chasser la douleur, d'ailleurs il a refusé ce qui lui a été proposé, parce qu'à l'époque ce qu'il lui proposait c'était une espèce de morphinique pour calmer la douleur, il l'a refusé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir Marie et Jean, et il sait que eux vont souffrir. Marie c'est sa mère, Jean c'est son ami, c'est un des trois. Jean est en train de soutenir Marie. Et Jésus va dire à Marie, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » C'est-à-dire qu'il va leur dire, « Jean, moi je suis plus là, prends soin d'elle. Marie, moi je suis plus là, prends soin de lui. » Et vous savez, moi ça m'est arrivé des fois, d'être dans des moments difficiles et puis Dieu m'envoie quelqu'un à prendre, de qui prendre soin. Alors des fois je dis à Dieu, t'exagères, parce que alors, franchement là, ça serait bien de moi qu'il faudrait qu'on s'occupe, mais non, pas du tout. Et là, lui, malgré tout, il continue de prendre soin des siens. Et il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où il n'est plus en contact avec son père. Et ça, c'est une déchirure. C'est une déchirure profonde, je pense qu'on ne peut pas la mesurer. Et à ce moment-là, vous vous souvenez de sa dernière parole ? Tout est accompli. Je suis au bout. But atteint. J'y suis arrivé. À la grâce de Dieu, ils sont sauvés. C'est-à-dire qu'il a tout vécu pour arriver sur ce « tout est accompli ». Et au niveau mauvais moment, c'était fort. Alors comment Dieu regarde ça ? On a regardé les acteurs, comment Dieu va répondre à tout ça ? Pour Job, lisez, quand vous passez des sales moments, lisez la réponse de Dieu à Job. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit... c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Tu sais comment ça fonctionne, la pluie et la grêle ? Le lévitant et le je sais pas quoi, tu sais qui c'est qui est capable de les mettre debout et qui les gère ? Non, parce que tu dis que tu gères et que tu fais beaucoup de choses. En gros, Job, t'es qui ? Je pense pas que ce soit ça que Job attendait de Dieu. J'imagine... que c'était pas ça que Job attendait de Dieu. Mais en même temps, quand il lui dit « Tu es qui ?» Il lui dit « Je suis le Tout-Puissant. J'ai tout dans mes mains. T'es peut-être tout petit, mais au même titre que j'ai créé la terre. J'ai réussi même, et ça je trouve c'est fortiche, parce que nous, quand on crée des trucs, ça bouge pas. Enfin, je sais pas pour vous, moi, si je crée quelque chose, ça bouge pas, il n'y a pas de vie, et ça évolue pas. Vous avez des informaticiens, ils réussissent à créer des robots. Ils arrivent même à leur faire un petit peu une conscience évolutive, mais ça restera des robots. Vous savez où Dieu a été très fort, c'est qu'il a créé une terre qui évolue. Non seulement il a créé quelque chose, aussi... exceptionnel que la Terre, mais il a posé des règles de fonctionnement, il a posé des règles mathématiques, scientifiques. Aujourd'hui, on est content de les découvrir, lui, il y a longtemps qu'il les a fait, et il a réussi à faire un truc vivant qui évolue. Il est créateur. La réponse de Dieu à Jésus, rappelez-vous, Jésus qui, à un moment, avait même plus contact avec son père. Quand il est mort, que s'est-il passé ? On le voit dans le film, il y a un tremblement de terre. Les hommes ont vu. À ce moment-là, il y a un soldat qui va dire « Assurément, cet homme était Dieu. » Les hommes ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre quand Jésus est mort. Les religieux qui ne voulaient pas croire qu'il était le Fils de Dieu, vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eux, ils devaient être au temple, entendre dire « Oui, Seigneur, tu vois, on a... » Alors, ils disaient pas Seigneur parce qu'ils n'avaient pas le droit. On a réussi à chasser l'anathème, cet homme qui se disait fils de Dieu. Nous sommes les sacrificateurs. Moi, l'année dernière, j'ai pu aller dans le lieu très saint. Bon, d'accord, on m'a mis une ficelle à la cheville parce que si jamais je mourais à cause de mes péchés, il fallait me tirer pour sortir parce que je n'étais quand même pas tout à fait parfait. Et à ce moment-là, la réponse de Dieu à la mort de Jésus, vous savez ce qui s'est passé ? Le voile du temple s'est déchiré. On en reparlera. Je vous donne rendez-vous bientôt. On vivra ensemble la progression dans le temple. Le voile s'est déchiré. Ça veut dire que Dieu, parce que quelqu'un avait payé, Dieu donnait accès aux hommes à son pardon, à son salut. La claque que ça a dû être pour ces hommes. Le souverain sacrificateur qui était rentré en tremblant, il voit le rideau se déchirer sans qu'il ait rien fait. La seule chose qu'il a fait, c'est accuser un homme qui est en train de mourir là-haut, sur le mont Golgotha. Et dans les ténèbres, Satan, il s'est dit, ça y est, je l'ai pas eu à la tentation, je l'ai pas eu dans le désert, je l'ai pas eu à coup de caillou, je l'ai pas eu. Mais là, sur la croix, je l'ai eu, il est mort, c'est moi qui ai gagné, Dieu, ton projet, il est foutu, tu voulais avoir le contact avec les hommes, c'est fichu, ils obéissent pas à ta loi, et maintenant, ton sauveur, il est mort. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a ressuscité. Et si vous lisez même, il me semble même qu'il y a eu des morts qui sont ressuscités quand Jésus est mort, le jour même. Mais il a ressuscité Jésus. C'est-à-dire que la réponse de Dieu, elle a été à tous les niveaux au moment de sa mort. Et la résurrection, c'est ce qui nous donne l'assurance que Dieu est vraiment vivant, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et qu'on peut s'appuyer sur lui. Alors pour nous aujourd'hui, forcément, on vit des moments difficiles. Alors comment on doit réagir? On ne doit pas nier la réalité. Ça va pas bien. On n'a pas envie de dire à Dieu, je te remercie parce que tu es merveilleux. Vous avez juste des larmes qui coulent, ben faites-les couler devant Dieu. Vous n'êtes pas bien, faites pas comme si ça allait. On a tous des symptômes pour dire que ça va pas bien. Moi, les gens avec qui je travaille, quand ils vont pas bien, c'est là qu'ils replongent dans leur comportement, dans leurs produits. Et à chaque fois, je leur dis, quand on en parle, je leur dis, bon, quand vous avez recommencé à boire, recommencé à fumer, recommencé à acheter comme des malades, bouffer comme je ne sais quoi, ou pu manger, quand vous avez recommencé vos comportements, vous avez recommencé à mettre une mauvaise solution sur votre problème. Alors maintenant, on va essayer de vous accompagner à résoudre votre problème, parce que tant que le problème sera là, vous continuerez à manger et à prendre les mauvaises solutions. Mais il n'y a pas qu'eux qui font ça. Quand on est mal pris, quand on a peur, on s'en sort par un petit mensonge. On s'en sort par une pirouette. Ça ne résout pas le problème. Quand on ne regarde pas la réalité en face, c'est pas être responsable. L'attitude « tout va toujours bien », c'est pas être responsable. Il ne faut pas s'enfermer non plus. On l'a vu, s'enfermer, c'est un peu se regarder le nombril ou regarder ses pieds. D'accord ? On contemple sa douleur. Tant que vous contemplez votre douleur, vous n'avancez pas. Quand on s'enferme sur soi, comme celui qui regarde ses pieds et qui essaye d'avancer. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Vous arriverez toujours à trouver des personnes qui vous plaignent. Oh, bah c'est pas de chance. Oh, bah c'est pas bien. Oh, bah t'as pas de chance. Vous arriverez toujours, ou alors vous allez vous trouver des personnes qui vous culpabilisent un peu plus que ce que vous êtes déjà culpabilisé. Les bonnes personnes, c'est pas celles qui nous disent que tout est mal chez nous, ni celles qui nous disent que tout est bien chez nous, ou qu'on a toujours raison. Mais c'est celles qui nous connaissent, qui comprennent ce qu'on vit, et qui nous donnent les bons conseils. Les bons conseils, donc nécessairement, pour moi, nécessairement les bonnes personnes vont au moins être des chrétiens. Des chrétiens qui ont une vie spirituelle assise, solide en Dieu. Il y a des choses que je vis ou que j'entends, des fois par exemple au travail, je vis des choses terribles, j'entends des choses mais redoutables. J'en parle jamais tout de suite à ma famille, parce que je veux pas leur faire porter ça. Des fois il me faut 24-48 heures pour ouf, encaisser et pouvoir en parler, voire même des fois en rigoler. D'accord ? Il y a des choses qu'on vit qu'on ne peut pas faire porter à n'importe qui. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire porter à des gens trop jeunes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire porter à des gens trop fragiles. Mais on ne faut pas les porter tout seul. Vous savez, en psychologie, on dit que mettre les choses en mots, ça aide à soulager. La parole libère. C'est ce qu'on dit en psycho. Parlez-en, ça ira mieux après. Des fois même, on vous dit, moi je le conseille souvent, écrivez sur une feuille ce qui vous passe par la tête ou ce qui vous fait mal et déchirez-le après ou brûlez-le. Vous savez quoi? La parole libère. Jean 1:1. Au commencement, elle était la parole et la parole était Dieu. Je vous le fais raccourci, parce que j'ai plus tout le détail. La parole libère. Jésus est la parole. Quand on parle de Jésus entre nous, on libère les chaînes. entourez-vous des bonnes personnes. Évidemment, confiez-vous à Dieu, comme David l'a fait si souvent. Lisez les psaumes, vous verrez. Il peut tout entendre. Je pense qu'après ce qu'a vécu Jésus, vous n'avez aucun risque de lui faire peur, de lui faire mal ou de le surprendre. Et puis surtout aussi, regardez à l'objectif que Dieu a pour vous. Regardez au-delà de vos problèmes, prenez de la hauteur. Le moment difficile, c'est jamais la finalité pour Dieu. C'est une étape. Parfois même, cette étape, Dieu, il veut il nous laisse passer cette étape. Pourquoi ? Pour nous former, pour nous transformer, pour qu'on soit différent. Moi, je vais vous dire un secret. J'ai fait des erreurs graves dans ma vie. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, je ne peux pas juger ceux qui font des erreurs graves. Je ne les regarde plus de la même façon. C'est une grâce de Dieu qui a fait de mon erreur, de mon sale caractère, qui en a fait pour moi une assise solide. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je ne m'appuie plus sur moi. Et comme je ne m'appuie plus sur moi, vous savez quoi ? Je suis épatée de ce que Dieu fait avec moi. Je suis épatée de la grâce de Dieu, de ce qu'il manifeste à travers moi, parce qu'il y a bien des circonstances où je prie, notamment quand je suis au boulot et que les gens me déversent, des souffrances, des misères, des douleurs. Et là, je dis, Seigneur, mais donne-moi ta grâce, je ne sais pas quoi leur dire, mais ils repartent avec une misère sur les épaules et j'ai pas le droit de parler de toi, ça c'est le plus dur. Et voilà, et je leur parle. Et je leur dis de faire des trucs, ou je vois avec eux comment on peut par la suite continuer. Et récemment, je me suis aperçue, j'en parle à une collègue qui me dit, alors celle qui m'avait adressé, la patiente, dit, ben, je lui ai proposé de faire ça. Elle me fait, ah mais c'est génial, nous, on a été formés là-dessus. Ouais, on nous a dit qu'il fallait faire ça, on nous l'a appris. Et là, je dis, Seigneur, t'es trop fort. Moi, je suis pas allée en formation, j'avais pas l'info, toi tu m'as donné l'idée, et j'ai accompagné cette personne de la bonne façon. C'est pas moi avec mes connaissances. C'est parce qu'à ce moment-là, j'étais conduite par le Saint-Esprit de Dieu parce que j'ai appris à plus m'appuyer sur mes propres forces. Elles ne sont pas très fiables. Elles ne sont pas toujours justes. Bon, en plus, si je vous dis que je suis dyslexique, des fois même j'arrive à dire le contraire de ce que je pense. Donc, avec un tel appui, je me souviens même, j'avais un prof qui m'avait dit « Alors toi, il ne faudrait pas que tu sois infirmière. » Parce qu'à l'époque, je n'étais pas étiquetée dyslexie, j'étais étiquetée étourdie, celle qui ne fait jamais attention. Et il m'avait dit, bah toi, si un jour t'es infirmière, j'irai pas à l'hôpital parce que tu serais capable d'oublier les compresses dans les pansements. C'est pas moi qui me suis qualifiée, c'est Dieu qui me qualifie. Il faut regarder à Dieu. Il faut regarder à l'objectif de Dieu. Je peux vous dire que quand on sait qu'on est dans la main de Dieu et qu'on est dans le chemin que Dieu nous mène, on va prendre des coups. On passe des sales moments. Il y a des gens, quand vous allez leur dire « Ah, j'ai reçu un appel », ils vous disent « Oh là 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 là, tu vas souffrir !» Et puis, il leur arrive une tuile, puis on fait « Ah, c'est parce qu'il a été appelé. C'est parce qu'il veut rentrer dans le service, il a des combats !» Oui, c'est vrai, sauf que les hôpitaux sont remplis de gens qui rentrent pas dans le service. D'accord ? Je connais pas un seul médecin au chômage, ou alors c'est qu'il est viré de l'ordre des médecins. Essayez de prendre un rendez-vous chez un médecin en ce moment, c'est rare qu'ils vous disent « Ah ouais, venez tout de suite, j'ai personne !» D'accord ? Les gens ont des problèmes. Les gens ont des difficultés. Moi, à mon boulot, je ne croise que de ça. Ouais, évidemment, c'est un peu une concentration. En prison, il n'y a que des gens qui ont des problèmes. Mais quand on sert Dieu, la différence, quand on a des luttes et des combats, vous savez quoi ? Bon, au moins, vous savez pourquoi vous prenez des coups. Parce que de toute façon, on en prend. Vous savez que vous prenez des coups, mais c'est pour une bonne cause. Et en plus, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même là où Satan croit être malin, parce que effectivement, qu'il va vous en donner des coups, il va pas vous laisser faire. Évidemment, il n'est pas fou. Moi, quand je vois un jeune qui se lève pour servir Dieu, je prie tout de suite. Pourquoi ? Parce que je sais que Satan, ça va lui foutre les jetons. Lui, les jeunes, il les détruit. Quand il voit des jeunes venir à la réunion de jeunes, repartir rempli de la grâce de Dieu et influencer leur entourage, il a perdu. Quand il voit des jeunes enfants de chrétiens aller dans la société rejeter tout ce qu'ils ont entendu, partant du principe qu'on, de toute façon, les parents, ils ont rien compris, et puis que dans la société, c'est pas si pourri que ça, c'est pas si mauvais que ça, et qu'on peut être heureux sans Dieu, et que ces enfants de chrétiens font les mêmes choses que ceux qui les entourent, je peux vous dire que j'ai souvent pleuré. Parce que Satan a gagné dans ce coup-là. Mais moi, Satan, je lui dis, attends, moi, ils vont revenir, ces jeunes, je prie pour eux, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à DNJ, il y a des jeunes que j'ai eus ici, qui vont venir. Gloire à Dieu. On a des jeunes qui reviennent. Alors, ils reviennent avec des gamelles. Mais peut-être qu'avec ces gamelles, ils aideront les autres. Mais moi, ce que je veux vous dire, les jeunes, alors les anciens l'ont peut-être déjà entendu, je vous prie de m'excuser. C'est vous qui avez la vérité entre les mains. Vos copains, c'est vous qu'ils attendent. C'est pas moi avec mes cheveux blancs qui vais aller leur parler. Qui vais leur dire, vous savez, la vie aujourd'hui avec Dieu, c'est possible. Ils vont me dire, ah, t'es gentil. Mais tu sais pas ce qu'on vit. Alors moi, je le sais en théorie. Hein. Je suis prof, j'enseigne la sociologie et j'ai tous les cours pour vous expliquer comment c'est douloureux d'être jeune aujourd'hui, ça je le sais. Comment c'est compliqué de rester dans les voies de Dieu aujourd'hui parce que la société est pourrie. Je le sais en théorie, hein. Mais vous le vivez. Mais vous le vivez avec la grâce de Dieu parce que vous connaissez Dieu. Et vous savez que quand il y a un pépin, au secours Seigneur, d'accord ? Vos copains autour, ils ont pas ça. Vos copains autour, quand ils ont un pépin, c'est « débrouille-toi, fous-toi la tête à l'envers, prends des substances, va de lit en lit, couche, éclate-toi, le sexe ça libère, donne ton corps, et puis redonne-le. » Alors de toute façon, ça compte plus. Je les ai vus ces jeunes, je les ai entendus, j'ai fait des maraudes en ville auprès des étudiants. J'ai pleuré une fois, j'ai dit à mes collègues « on s'en va, j'en peux plus. » Vous souffrez, vous morflez ? Vous n'êtes pas compris. Vous avez Dieu. Alors, confiez-lui ça. Et vos copains, apprenez à les aider. Ce qu'ils ont besoin, c'est des gens qui connaissent Dieu, qui soient solides en Dieu, qui soient fermes en Dieu, pour qu'ils leur en parlent. Parce que eux ont besoin de Dieu, ils sont en train de le chercher. Vous pouvez être la lumière du monde. Ben, vous savez quoi ? Ça donne une bonne raison de se battre, non ? Vous savez que c'est sur Dieu, que sur vous que Dieu compte, parce que Jésus, Dieu aurait pu convertir les gens sans nous, mais il a fait le choix de passer par nous. Moi, c'est ce qui me fait tenir. Alors évidemment, je suis allée chercher dans la parole de Dieu comment on pouvait tenir, quelle était notre espérance. Romains 8, 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Dieu, l'amour de Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution ? La faim, la misère, le danger, l'épée. Parce que là, Paul, il dit, mais même si on perd tout, même si on a tout perdu, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on perde aussi l'amour de Dieu ? Ça, on ne le perd pas, on l'a tout le temps. Car il nous arrive ce qui est dit dans l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort. À longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les Satan, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut dans le milieu spirituel, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que on passe des sales moments, on passe des sales quarts d'heure. Mais il y en a un qui sait tout ça et qui sait ce qu'on vit, et qui est avec nous, et qui ne nous a pas abandonnés. Bon, vous savez, vous vous rappelez ce qu'il a dit ? Tout est accompli. C'est un peu quand on regarde à ces problèmes, quand on regarde à ces difficultés, c'est un peu comme ce soir, j'ai de la chance, enfin je disais pas ça cet après-midi, c'est un peu comme ce soir où vous voyez le ciel est couvert. Bon, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de grêle, le ciel n'est pas noir, mais il est bien couvert. Mais vous savez quoi ? Ben le ciel, le soleil, il est toujours au-dessus. C'est pas parce que le ciel est noir, qu'il est couvert, qu'on a l'impression qu'on n'avance plus, qu'il n'y a plus de soleil. Si vous regardez qu'aux nuages, vous allez déprimer. D'ailleurs, quand il pleut, c'est déprimant. D'accord ? Mais le soleil est toujours au-dessus. Eh bien, quand on a des souffrances, des douleurs, L'amour de Jésus, l'amour de Dieu est toujours là pour nous. Lui ne nous abandonne pas. Lui ne nous lâche pas. Et quelle est notre assurance pour avancer? Parce que nous sommes, dans Éphésiens, nous sommes fils et filles de Dieu quand nous lui avons donné sa vie. Rappelez-vous, on vous a dit, nous sommes adoptés. On a changé de nom, on a changé d'identité, on a changé de nation. On fait partie de la nation de Dieu. Alors qu'est-ce qui nous donne cette assurance? C'est que Dieu, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Les plus gros mots, les moments les plus importants, c'est ceux qui sont dans notre homme intérieur et les filles dans notre femme intérieure. Il est afin d'être rempli, selon la richesse de sa gloire, dans la puissance fortifiée dans son homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, et ça c'est un de mes passages préférés, en fait j'en ai beaucoup de passages préférés, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. J'ai envie de vous dire, on passe des sales moments. Ce qui fait la différence, c'est si on est rempli de la plénitude de Dieu ou pas. Remplissez-vous, lisez la parole de Dieu, et vous serez enracinés et fondés dans l'amour. Je ne vais pas vous chanter la chanson « Le fou sur le sable a bâti sa maison »,« Le sage sur le roc a bâti sa maison ». Pour certains, vous la connaissez, puis pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, je ne vous la chanterai pas. L'idée, c'est que si vous bâtissez une maison, vaut mieux la construire sur quelque chose de solide. Si on construit sur quelque chose de solide, et si on est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, vous savez quoi? Dans ce monde où tout le monde est en galère, dans ce monde où Satan est en train de détruire tous les jeunes, vous allez faire la différence. Pas en faisant semblant d'aller bien, en allant bien, en étant bien. Pourquoi vous irez bien ou vous serez bien? Non pas parce que vous serez levé le matin en disant « je vais bien, tout va bien, je vais bien ». Non, parce que vous serez rempli de la plénitude de l'assurance de l'amour de Dieu. Normalement, un enfant, quand il grandit, il se pose... Alors, je parle avant l'adolescence. Dans une famille à peu près normale. Un enfant ne se pose aucune question. Mathilde, quand elle était toute petite, ça m'avait impressionnée. On était à la piscine. Je ne vais pas vous dire ma fille, elle est là, autant je l'appelle. Elle était toute petite. On était à la piscine. Et Jacques nage très bien, pas moi. Mathilde en allait dans le grand bain. Elle était au bord du bain. Elle courait. Et elle sautait dans l'eau, persuadée que son père allait la rattraper. Moi, j'avais le cœur qui... Oups. Et là, j'ai dit à Jacques, on lui apprend à nager, parce qu'un jour, tu vas pas être là. Mais elle avait une confiance absolue, comme un enfant peut avoir confiance en son père. Elle savait que son père n'allait pas la laisser couler. Elle était pas folle, elle savait que l'eau, elle allait pas marcher dessus. Mais elle savait que son père allait pas la laisser couler. Je savais que son père allait pas la laisser couler, et puis que si jamais ça mettait trop de temps, je savais la réanimer. Mais ils y pensaient pas, eux. D'accord? Cette assurance de l'amour de Dieu. Elle m'en a fait une autre. Et là, tu vas rougir. Une fois, au mois de décembre, début décembre, ça doit être le 5 ou le 6, je vais pour me coucher, j'avais un petit mot sous mon oreiller. Maman, je sais que tu m'aimes et que tu vas me faire un cadeau pour mon anniversaire. Alors maman, je te dis déjà merci. Vous savez que Dieu, c'est cette relation-là qu'il veut avec vous. C'est cet amour-là qu'il a pour vous. Mathilde, elle n'a pas douté un instant. Aujourd'hui, elle en douterait peut-être plus parce qu'elle sait que je peux me tromper dans les dates. À l'époque, elle n'a pas douté un instant que sa mère allait lui fêter son anniversaire. L'amour que Dieu a pour vous ne dépend pas de ce que vous faites. L'amour que Dieu a pour vous ne dépend pas de ce que vous faites de bien ou de mal. L'amour que Dieu a pour vous dépend de ce que vous lui donnez votre vie, de ce que vous le laissez agir. Et évidemment, si vous l'aimez, vous n'allez pas ruiner votre corps. Si vous l'aimez, vous n'allez pas ruiner votre santé. Si vous l'aimez, vous n'allez pas ruiner vos relations. Si vous l'aimez, vous n'allez pas gâcher votre temps. Vous n'allez pas courir après des choses qui vous détruisent ou qui sont inutiles ou qui font du mal aux autres. Si vous l'aimez, vous allez chercher le bien de ceux qui vous entourent. Si vous l'aimez, vous allez vouloir que ceux qui vous entourent aient le même bonheur que vous. Moi, quand j'ai envie que les gens voient Dieu à travers moi, j'ai envie que les gens viennent me voir en me disant « Mais qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas ?» C'est ça que Dieu veut pour vous. Vous savez quoi? Dieu veut que vous fassiez la différence. Dieu veut que vous soyez des héros. Ça passera pas sans combat. Mais pour quelle gloire? Avec Dieu, on fait des exploits. Vous êtes jeune. Vous avez une vie à construire. Et comment on tient? Parce qu'on sait qu'on est aimé. Vous savez ce qu'on a le plus besoin dans la vie? Moi, les gens, quand je les écoute, je mets pas longtemps à gratter un peu. Je me souviens d'une jeune femme qui un jour m'a dit « J'ai fait une tentative de suicide pour que ma mère s'occupe de moi. » Je dis « Vous attendez toujours qu'elle vous dise qu'elle vous aime ?» Elle m'a regardée en pleurant, elle m'a dit « Oui. » Une fille magnifique. Vue de l'extérieur, vous dites « Elle a tout pour elle, cette fille. » Il lui manque quoi ? Elle a fait des belles études, elle est belle, même si elle ne croit pas. Il lui manque quoi ? Que maman lui dit « Je t'aime ». Vous, vous avez un Dieu, on a un Dieu qui nous dit « Je vous aime tellement, tellement, que j'ai tout sacrifié pour vous ». Jésus vous dit « Je vous aime tellement que j'ai tout supporté pour aller jusqu'au bout. Même perdre le contact avec mon père, parce que je vous aime ». Tiens, je vais vous donner un scoop, les jeunes. Avec Daniel, avec toute une équipe, on est en train de mettre en place l'évangélisation dans la rue. Vous savez quoi, les jeunes? On va sortir. On va aller les voir, les gens, dans la rue. Avec une seule arme. L'amour de Dieu. Et vous savez quoi? C'est ça qui va faire la différence. Vous imaginez dans le ciel les anges en train de dire « Waouh, il y a les jeunes qui se réveillent et on va pouvoir des bénédictions, on va voir Dieu qui bénit. » Dieu, il paraît que quand un sauveur, quand un pécheur se repent, c'est la fête au ciel. Ben vous savez quoi? On va lui annoncer qu'il va falloir qu'il s'attende à faire la fête non-stop parce qu'on va y aller. D'accord? Mais on n'y va pas par conviction. On n'y va pas parce que ça nous fait mal au cœur de les voir. On y va parce qu'on est rempli de l'amour de Dieu et on a un truc à leur dire. On a un truc à leur dire. Le truc qu'on a à leur dire, c'est, vous savez, moi je connais quelqu'un qui m'aime tellement fort, qui m'a tout pardonné, qui m'aime tellement fort, qui m'aide à avancer tous les jours, que quand j'ai des difficultés, il me tient, il est toujours là, il prend toujours soin de moi, que quand ça va pas, je peux m'appuyer sur lui, je peux lui parler. Et puis j'ai des frères et sœurs, parce que je suis pas tout seul. On est toute une bande. On passe des super moments dans la louange et dans l'adoration. Ce que je vous propose tout de suite maintenant, parce que ça y est, j'étais longue, c'est qu'on se mette devant Dieu et qu'on regarde, en toute honnêteté devant Dieu, comment on réagit quand on a des moments difficiles. Quelle est notre réaction? Quelle est l'attitude que l'on prend? Et quelle est l'attitude que Jésus voudrait qu'on prenne? Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es celui qui a tout accompli. Tu es celui qui a tout payé pour qu'aujourd'hui nous puissions venir dans ta présence, pour qu'aujourd'hui nous puissions rentrer dans ce lieu très saint et t'adorer et avoir cette communion avec toi, pour qu'aujourd'hui nous ayons l'assurance que quoi qu'il arrive, tu nous aimeras toujours, nous serons toujours dans le creux de ta main. Quoi qu'il arrive, nous aurons toujours le bénéfice de ton amour. C'est pas toi qui vas lâcher notre main. Et Seigneur, si nous avons lâché ta main, si nous t'avons trahi et renié par nos comportements, Seigneur, tu nous pardonnes. Seigneur, si on voit la mocheté de qui on est, tu nous régénères. Si on te demande pardon, tu nous pardonnes, tu effaces les péchés et tu dis que nous sommes une nouvelle créature. Seigneur, nous venons devant toi ce soir pour que dorénavant, les problèmes, on les traverse autrement, non plus en se plaignant, en gémissant, mais en déposant à tes pieds nos injustices, nos douleurs et nos fardeaux, en déposant à tes pieds nos larmes, en partageant entre frères et sœurs et en priant les uns pour les autres, en donnant notre vie pour toi, en donnant notre vie à toi parce que tu es ce Dieu glorieux et puissant. Seigneur mon Dieu, aide-nous chaque jour à regarder au-delà de nos misères, pour regarder ta gloire, pour regarder ce chemin que tu as tracé devant nous, pour regarder ces choses que tu as mis en nous. Et Seigneur, je te supplie que ces jeunes fassent la différence là où tu les as placés. Que là où tu les as placés, des jeunes désespérés voient dans leurs yeux la puissance de ta gloire. Que là où tu les as placés, des jeunes voient en toi, voient en travers eux que tu es ce Dieu puissant d'amour. Que les autres jeunes voient que tu existes. Que ces jeunes qui sont là ce soir, qui te connaissent, deviennent la lumière du monde, le sel de la terre, le goût de vivre. Seigneur, nous savons que nous vivons les derniers temps. Et Seigneur, nous savons que c'est des temps de ta victoire. Tu vas revenir glorieux et victorieux. Alors nous voulons acclamer ton nom, nous voulons glorifier ton nom. Et nous voulons te dire, Seigneur Jésus, sois béni, sois glorifié, parce que tu vois au-delà de ce que nous voyons. Tu es puissant au-delà de ce que nous comprenons. Tu gères au-delà de ce que nous pourrions voir et imaginer. Mais en tout temps, tu as tout dans tes mains. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, parce que c'est toi qui nous donnes la force d'avancer. Pas après pas sur ce rocher solide que tu es, avec la puissance de ton amour dans nos vies. À toi soit la gloire et l'honneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois béni, Père.